Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonsoir à tous, bienvenue, ça se dispute et une actualité toujours particulièrement lourde ce soir, dense également avec face à face en direct. Éric Revel, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Et soyez le bienvenu. Nathan Dever, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Merci d'être là également. La France peut-elle céder à la peur sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas? La France est passée en alerte urgence. Attentat, c'est le niveau le plus haut du plan Vigipirate. La décision a été prise par Elisabeth Borne après l'attaque au couteau d'Arras hier où Dominique Bernard, le professeur de français, a été tué. Mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé ce soir, a comptabilisé les actes antisémites cette semaine. Écoutez.
Je voudrais informer les Français que 65 interpellations ont eu lieu en lien direct avec des actes antisémites. 23 de ces 65 interpellés étaient des étrangers. La consigne que j'ai donnée à l'ensemble des préfets de la République, c'est de dégradation et le retrait du titre de séjour systématique de l'ensemble de ces étrangers. Ces consignes sont appliquées. 10 de ces étrangers sont en centre de rétention administratif en attendant une expulsion ou détenus en prison pour deux d'entre eux.
Des consignes donc qui ont été appliquées en effet, Éric Revel, qui aurait pu être appliquées aussi peut-être avant l'attentat d'Arras, et le Gérald Darmanin qui annonce qu'il y aura une sécurité renforcée autour des matchs de la Coupe du Monde de rugby également. Cela veut dire que le gouvernement prend les choses très au sérieux tout de même ou ouvre le parapluie
pour forcément, on est obligé de prendre très au sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi, l'évacuation du musée du Louvre. Une alerte à la bombe au château de Versailles, un colis suspect à la gare de Lyon. Moi, évidemment, immédiatement, j'ai pensé au quart de finale demain entre la France et l'Afrique du Sud au Stade de France. Imaginez qu'il y ait une alerte à la bombe au Stade de France et qu'il faille faire évacuer l'enceinte sportive, ça paraît complètement fou. Donc oui, il y a une multiplication d'actes antisémites dans ce pays. On est le seul pays à avoir déclenché le plus haut niveau de vigilance face à des attentats, ce qui veut dire qu'on est une cible privilégiée, on le sait, et malheureusement on l'a réappris avec le drame absolu de ce prof à Arras qui s'est fait égorger, on peut le dire. Je veux dire, certains médias vous disent il a pris des coups de couteau, non, il a été tranché au niveau de la carotide, c'est ça la réalité. Quelques jours après l'anniversaire de Samuel Paty, enfin on est dans une horreur absolue. Ce qui m'inquiète un peu, c'est aussi des déclarations de Gérald Darmanin qui dit « Française, Français, en gros, soyez prudents ». Soyez prudents, monsieur le ministre, bien sûr qu'on est prudents, mais c'est quand même à la République de nous protéger.
Ça veut dire aussi débrouillez-vous, faites attention, nous n'avons pas les moyens de vous défendre.
Vous pouvez le prendre comme ça. On n'a pas les moyens de mettre évidemment un policier ou un gendarme dans chaque bar, dans chaque musée, dans chaque lieu de culte, si, on peut le faire. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est qu'en réalité, même si on ne le dit pas comme ça, c'est qu'un acte d'un loup fanatisé, radicalisé, islamiste, isolé, il est presque incontournable. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez empêcher en réalité? Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'on est un pays cible. On a vécu le Bataclan, on a vécu Charlie Hebdo, on a vécu cette atteinte à des profs. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, pardonnez-moi, mais vous avez vu que ce terroriste, lorsqu'il a frappé une première fois ce prof de français, il cherchait un prof d'histoire. Non mais c'est intéressant, parce que Versailles, c'est un lieu d'histoire. Le musée du Louvre, c'est un lieu de culture. C'est-à-dire que non seulement...
Samuel Paty était professeur d'histoire.
Voilà, non seulement l'éducation républicaine gêne ces barbares islamistes, mais en plus l'histoire que nous portons, ou la culture que nous portons, qui est une culture judéo-chrétienne, les gêne. Et c'est ça. Donc évidemment qu'il faut être unis, évidemment qu'il faut faire front et faire face, mais Est-ce qu'on peut éviter un nouveau drame? Je l'espère, mais j'en suis pas certain.
On verra tout à l'heure avec les déclarations notamment du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, la Première ministre, c'était à la Sorbonne aujourd'hui pour le prix qui honore la mémoire de Samuel Paty. Mais d'abord, par rapport à cette situation, ce caractère d'urgence et tout ce qui est du domaine de l'anxiété, c'est une situation très anxiogène, c'est vrai, Nathan Devers. Faut-il céder à cette psychose? Est-ce que le pays va plonger dans la psychose? Est-ce qu'on peut relativiser la situation?
Avant même de parler d'anxiété ou de psychose ou de peur, il me semble que le pays est et doit être dans la tristesse et dans l'horreur parce qu'on a tué un professeur 3 ans après Samuel Paty. Un professeur qui, selon les témoignages, était un professeur merveilleux, Dominique Bernard, qui a fait preuve d'un courage physique et moral absolument exemplaire quand, en fait, il a essayé de protéger ses élèves en sacrifiant sa vie pour que ses élèves puissent rester vivants dans cette situation. Donc, émotion de savoir qu'on vise l'éducation nationale. Qu'à travers l'éducation nationale, ce qu'on vise, c'est le ciment de la République. Et comme le disait Éric, que ce qu'on vise, enfin, en tout cas, manifestement, on verra de plus amples informations, mais que ce qui était visé en priorité, c'était l'histoire. Et en effet, l'esprit historique, au fondement de tous les fanatismes, au fondement de tous les intégrismes, il y a un refus, il y a une allergie envers l'esprit historique. Esprit historique qui remet les choses en perspective, esprit historique qui montre que les absolus ne tombent pas du ciel, qui sont créés par les humains, qui sont construits, et donc il faut faire en sorte que les perspectives de nos différentes cultures cohabitent, ou en tout cas soient vues dans leur relativité. C'est ça aussi qui était visé et qui était détesté, et c'est normal que nous soyons toutes et tous dans une émotion intense. Maintenant, pour vous répondre sur l'anxiété, sur la peur, il me semble deux choses, qu'évidemment on doit être dans la vigilance. C'est central et que c'est une peur qui doit être rationnelle. Il y a une menace. Cette menace, on l'a vu se réaliser. Il n'est pas délirant d'imaginer qu'elle puisse se répéter ou en tout cas qu'il y ait des gens aujourd'hui qui aient envie qu'elle se répète et qui s'organisent pour qu'elle se répète. On a vu aussi, je crois qu'on parlait des actes antisémites qui existent et qui sont une réalité. Donc cette menace-là, elle existe et naturellement, ça doit appeler à notre vigilance. Maintenant, j'aime pas le mot d'anxiété, enfin j'aime pas le mot de psychose plus que d'anxiété, pour deux raisons. D'abord parce que quand on tombe dans une politique de la peur, souvent d'ailleurs c'est complètement contre-productif et ça fait qu'on perd les pédales et que les risques arrivent. Et deuxièmement, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que les services de renseignement existent, les services secrets existent, qu'on sait qu'il y a des attentats qui ont été empêchés, qu'il y en a beaucoup ces dernières années qui ont été empêchés. On voit jamais les catastrophes évitées parce qu'on les raconte pas, enfin on les mentionne comme ça dans les médias, mais on voit pas ce que ça veut dire. Et donc il faut quand même voir que ce serait pas vrai d'imaginer que l'État ne fait rien pour essayer de protéger la population.
Bien sûr, mais il y a eu une recrudescence et notamment des actes plus nombreux cette semaine en lien avec ce qui se passe en Israël, au Proche-Orient notamment. En effet, il y a une résonance et on l'a dit sur ce plateau il y a déjà quelques jours.
Gérald Darmanin l'a dit sur TF1.
Bien sûr,
il a lié
évidemment
l'assassinat de ce pauvre prof
bien sûr
à l'embrasement au Moyen-Orient et à la prochaine intervention de Tzal
dans le monde entier qui est parti du Hamas en effet. Donc on est vraiment dans du terrorisme pur, c'est clair. Pour parler de la psychose, même si on n'aime pas le terme, tout y contribue néanmoins. Vous le disiez, Éric Revel, pour des raisons de sécurité, le musée du Louvre qui a fermé aujourd'hui, le château de Versailles qui a été évacué avec énormément de touristes à cause d'une alerte à la bombe et d'autres choses encore. On fait le point avec Dounia Tengour.
Des scènes de confusion, des mouvements de foule et des milliers de visiteurs interloqués. Samedi matin, le musée du Louvre a dû fermer ses portes et évacuer ses visiteurs pour des raisons de sécurité. Après avoir reçu un message écrit faisant état d'un risque pour le musée et pour ses visiteurs. Quelques heures plus tard, c'est au tour du château de Versailles d'être évacué en raison d'une alerte à la bombe. En fin d'après-midi, les voyageurs présents à la gare de Lyon ont quant à eux dû être évacués en raison d'un objet abandonné. Ces incidents interviennent alors que la France est en alerte maximale. 7000 soldats de l'opération Sentinelle vont être déployés dans l'ensemble du territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre.
Voilà, il y a eu aussi une alerte à la bombe à la gare de Lyon. Alors parfois, ce sont malheureusement des blagues, mais là c'est très très sérieux. On est dans une semaine charnière par rapport à ces actes de antisémites ou ces actes de terrorisme. En effet, il y a eu le lycée de Sèvres qui a subi des tags antisémites avec des croix gammées également en région parisienne. Il y a même un homme qui faisait l'objet d'une fiche S qui a été interpellé hier à Paris par les policiers dans le métro. Il a été appréhendé parce que il était en train de menacer plusieurs usagers avec un morceau de bois qui était taillé en pointe, et en l'arrêtant, les policiers se sont rendus compte qu'il était fiché. Alors, ce sont peut-être des éléments ou des incidents ou des événements qui se produisent tout au long de l'année, Éric Revel. Sauf que là, ils sont mis en relief, et c'est tout cela qui contribue à cette anxiété dont on parle.
Oui, vous avez raison. Alors moi, je vais reprendre les termes de Nathan, c'est-à-dire que je préfère le terme d'inquiétude à la psychose. Pour une raison très simple, c'est que, bien sûr, quand on évacue le musée du Louvre, la gare de Lyon ou le château de Versailles, on le fait au nom d'un principe de précaution dont s'honorent les démocraties. On ne peut pas mettre en jeu, même si c'est un abruti qui fait une fausse alerte à la bombe, mais ça dit aussi toute la fragilité des démocraties, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on évacue le musée du Louvre, à chaque fois qu'on évacue le château de Versailles, à chaque fois qu'on prend au pied de la lettre, c'est normal, un colis suspect à la gare de Lyon, en fait, sont des petites victoires pour ces extrémistes à chaque fois, puisque à chaque fois, on montre qu'on est obligé de surréagir devant un événement qui est plausible et qui pourrait entraîner un drame absolu. C'est toute la fragilité des démocraties. Vous voyez, est-ce qu'on ne doit pas... Vous vous souvenez, après le Bataclan, après Charlie Hebdo, à l'époque d'ailleurs où on applaudissait les forces de l'ordre, on les applaudissait, place de la République, hein, on leur rendait grâce de nous avoir protégés, eh bien on s'était dit, il faut essayer, autant que faire se peut, alors que le traumatisme était extrême, parce que ça s'était passé à Paris, on s'était dit, il faut continuer à vivre de la même manière. Et en fait, dans les rues, on s'épiait, on se regardait différemment. Dans le métro, on regardait si on voyait quelque chose qui traînait. Donc, ne pas céder à la psychose, c'est évidemment difficile, mais il ne faut pas leur donner cette victoire-là. Il ne faut pas céder davantage qu'on le fait. Alors, c'est très facile à dire, hein, mais si on commence à rester chez soi, si on commence à nourrir cette psychose, en fait, c'est déjà une victoire pour ces groupes terroristes islamistes.
Oui, mais en effet, pour les parents qui vont accompagner leurs enfants lundi, la journée de solidarité, les enseignants, cette anxiété, cette angoisse, cette psychose, cette peur, appelez ça comme vous voulez, elle existe évidemment. Les discours, néanmoins, puisqu'on va entendre quelques extraits des discours de politique à la Sorbonne aujourd'hui, pour rendre hommage à Samuel Paty, mais également au professeur d'Arras tué hier, ces discours peuvent-ils compenser cette peur, et peuvent-ils déclencher une forme d'unité contre la barbarie? C'est ce qui est recherché à travers le langage et à travers les mots, Nathan Devers.
Oui, déjà, je pense que Éric pointait une chose, c'est qu'il y a deux manières d'être victime du terrorisme. Il y a une première manière qui est la manière effective, quand il y a un attentat, et il y a une deuxième manière qui était celle que signalait Jacques Derrida dans son livre qui s'appelait Le concept du 11 septembre, juste après le 11 septembre, où il disait attention à ce qu'il appelle la logique de l'auto-immunité. Une maladie auto-immune, c'est quand le système immunitaire se met à s'auto-détruire alors qu'il devrait être là pour combattre des maladies extérieures. C'est exactement la même chose. Ça veut dire quand la psychose fait que sans même subir une attaque, on s'attaque, on devient corrosif vis-à-vis de soi-même. Et donc face à cela, des discours, même si on peut estimer que des discours, c'est toujours un peu des éléments de langage, que c'est jamais de la pensée très profonde, etc. Mais des discours qui nous disent des choses aussi simples que, et aussi essentielles, que restons unis. Et surtout, deuxièmement, la phrase d'Emmanuel Macron que j'ai trouvée très très bonne, où il disait « ne projetons pas nos fractures nationales sur des fractures et sur des drames internationaux », c'était une phrase absolument essentielle.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence énorme entre s'engager politiquement dans un conflit, et moi je suis absolument pas partisan du chacun chez soi, Ponce Pilate, on se moque de ce qui se passe dans le monde entier, non. C'est-à-dire quand il y a une guerre en Ukraine, quand il y a une guerre en Israël, quand il y a une guerre où que ce soit, évidemment qu'on peut s'engager et qu'on peut avoir la conscience engagée et même faire du militantisme. Ça, ce n'est pas la même chose que importer. Et importer, c'est quand on se met à cibler des citoyens de la communauté nationale en estimant qu'eux-mêmes sont partie prenante du conflit parce qu'ils n'auraient pas les mêmes engagements ou parce qu'on a envie de les essentialiser. Et donc, dans cette optique-là, les discours qui ont été prononcés ces derniers jours sont des discours... Enfin, les discours qui est visé à fédérer les Français sont des discours absolument salutaires. Et à l'inverse, les discours qu'on a entendus participer de cette importation du conflit sont eux des discours qui mettent clairement en danger le corps social et qui participent de cette auto-immunité-là.
Mais les discours sont-ils suivis des faits? Peuvent-ils être accompagnés d'actes également? C'est cela que les Français attendent très vraisemblablement. Et aujourd'hui, à la Sorbonne, pour la cérémonie consacrée donc au prix Samuel Paty, Gabriel Attal et Elisabeth Borne ont prononcé chacun un discours. D'abord, le ministre de l'Éducation qui explique que entre la mort de Samuel Paty et l'attentat d'hier soir à Arras, l'école n'a rien cédé. Écoutez.
Il y a 3 ans, le terrorisme islamiste et l'obscurantisme ont tenté d'éteindre la lumière, nos lumières. Mais l'école n'a rien cédé. Nos professeurs n'ont rien cédé. En reprenant le chemin des cours et en perpétuant la promesse de leur mission, nos professeurs ont poursuivi la révolte symbolique et pacifique des grands esprits qui font le pari de l'intelligence. Car notre école est plus forte que tous les obscurantismes. Nous sommes plus forts qu'eux. Et je le dis avec d'autant plus de force que nous sommes encore une fois en deuil. Il y a tout juste 24 heures, on a encore assassiné un professeur. Il y a tout juste 24 heures, on a encore voulu éteindre nos lumières.
Il y a pourtant, entre la mort de Samuel Paty et l'attentat d'hier, Écrevel, il s'est passé 3 ans, quasiment jour pour jour. Et il y a eu encore un attentat, quasiment dans les mêmes circonstances. Donc l'école a cédé du terrain, tout de même.
Si je voulais faire un peu d'esprit, et ce n'est pas le moment, parce qu'on a vécu un drame avec l'assassinat de ce professeur de français, je dirais que les profs continuent de faire vivre l'esprit des Lumières, mais on n'a pas changé les ampoules. On n'a pas changé les ampoules depuis 3 ans, en fait. Est-ce qu'on est capable de dire...
C'est le même discours, en fait.
Voilà, c'est le même discours. Et je vais aller plus loin. Et même si ce n'est pas le moment de la polémique, et j'aime bien ce qui est en train de se passer sur ce plateau. C'est-à-dire que, vous voyez, avec Nathan, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Mais là, on fait front commun sur une réflexion commune. Parce que, précisément, le moment est grave. Mais combien de lycées ou de collèges s'appellent aujourd'hui Samuel Paty ? Qu'est devenue la sculpture de Samuel Paty qui devait être érigée dans un endroit? Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, quand on est parent et qu'on a des élèves dans un collège, est-ce qu'on n'a pas peur pour ses enfants si le collège est rebaptisé Samuel Paty? Tout ça est vrai, mais en l'occurrence, l'esprit des Lumières, oui, c'est l'esprit qui nous guide depuis longtemps et qui guide beaucoup de professeurs qui travaillent à l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans? En fait, pas grand-chose en réalité. Est-ce que les professeurs se sentent davantage protégés? Est-ce qu'on est certain qu'un nouveau drame ne pourra pas arriver pour un prof d'histoire? Comment va peser ce nouveau crime sur la façon d'enseigner aux élèves la Shoah ou le monde musulman ou l'histoire de France?
Un professeur sur deux a de la retenue quand il donne.
Bientôt, ce sera un professeur sur un. C'est-à-dire que plus personne n'osera, et on peut le comprendre. Donc bien sûr, Gabriel Attal est dans son rôle, et cet amphithéâtre de la Sorbonne est tellement, alors pour le coup, teinté d'histoire, des discours d'Ernest Renan et d'autres, sur la nation justement.
Des thèses. Des thèses.
Certains ont soutenu des thèses dans cet amphithéâtre. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà des discours... C'est la seule arme qu'on peut pour l'instant opposer. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé pendant des années et des années des gens s'installer dans ce pays des droits de l'homme qui n'avaient qu'une ambition de détruire cette République et ce pays des droits de l'homme. Oui. Vous avez plein de pays dans lesquels les frères musulmans sont interdits. Anwar el Sadat l'a payé de sa vie. Le président égyptien a banni les frères musulmans de son pays en Égypte. Nous continuons de les accepter, voire même de les subventionner. Donc, les discours sont beaux, mais les actes... Et voyez, Gabriel Attal, je ne vais pas transformer ce que j'ai dit sur Emmanuel Macron, parce que Gabriel Attal, pour l'instant, fait un parcours à peu près sans faute, notamment sur la Baïa. Mais Emmanuel Macron, c'est le président des constats. C'est le président des constats. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est rendu à Arras, bien sûr. Il a dit, c'est un acte de barbarie islamiste. Très bien, mais tout ça...
La même chose qu'il y a 3 ans avec Samuel Paty.
Mais tout ça, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour changer les ampoules de l'esprit des Lumières depuis 3 ans? Qu'est-ce qu'on a changé comme ampoule?
Peut-être d'ailleurs que c'est une partie de la population ou la population qui va devoir se mobiliser. Quand Gérald Darmanin dit « faites attention, soyez prudents », certains invitent d'ailleurs une certaine partie de la population à se mobiliser, puisque comme c'est finalement l'islam, ou en tout cas l'intégrisme, le terrorisme islamiste qui est visé, Marek Alter, écrivain juif, mais qui est très très ouvert et qui est interreligieux, était notre invité cet après-midi dans 180 minutes Info Week-end. Et voilà ce que lui, il préconise pour essayer de régler ce problème. En gros, il dit que les musulmans de France doivent manifester et faire entendre leur voix.
Si j'étais l'abbé Pierre, mon ami l'abbé Pierre, j'aurais profité de l'occasion de dire « Au secours, réveillez-vous !» D'abord, mes amis musulmans en France, ils sont 10% de la population. Ils ne partagent pas les idées des Hamas, des djihad islamiques, des Hezbollah, de l'Iran qui décapite les jeunes filles parce qu'elles veulent pouvoir choisir leur mari. Descendez dans la rue, dites quelque chose. On est en train de salir votre religion, une grande religion.
La majorité silencieuse, les majorités silencieuses doivent se manifester, sortir du silence. Nathan Dever.
Je comprends très bien ce qui conduit Marek Alter à dire ça. Certainement, si j'étais musulman, j'écrirais une tribune pour dire que mon horreur devant cela. Mais je n'aime pas tellement cette incitation comme ça à demander à une communauté de se manifester en sous-entendant qu'elle se manifeste pas. Je veux dire la manifestation qui a eu
pour le fait elle se manifeste pas, ou en tout cas celles qui se manifestent, ce sont souvent des manifestations pro-palestiniennes ou pro-Hamas.
La manifestation qui a eu au Trocadéro en soutien à la société civile israélienne, objectivement les gens qui ont été disaient il y avait à peu près que des juifs. Il y avait à peu près que des juifs et il y avait d'ailleurs des Iraniens. Il y avait d'ailleurs des Iraniens musulmans qui
même
étaient
venus était là aussi.
Mais globalement il y avait à peu près que des juifs, donc on pourrait dire la même chose, je sais pas, des catholiques ou de n'importe quelle communauté. Et donc deuxièmement, donc ça insinue comme ça, comme présupposé que les musulmans cautionneraient peut-être, etc. C'est évidemment que la très 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 large majorité des musulmans qu'il y a en France ne cautionne pas des massacres sur les civils en Israël, en France, n'importe où, et ne cautionne pas l'islamisme. Et laisser croire qu'il y a une porosité comme ça importante dans la communauté musulmane en France vis-à-vis de la question islamiste, ça me semble être...
La confusion existe, Nathan Dever, c'est ça le problème. Cette confusion-là, elle existe. C'est-à-dire, ce que vous dites est très clair, mais une grande partie de la population pense que les musulmans cautionnent, que l'ensemble des musulmans cautionnent ce qui se passe.
Cette confusion, elle existe dans les esprits, malheureusement, d'une partie de la population. Ouais. Mais c'est une confusion qui est dangereuse, parce qu'elle contribue à crisper les communautés les unes contre les autres. Or, évidemment, ce qu'on voit bien, c'est que, je veux dire vraiment, croire que comme ça, que la majorité des musulmans, ou qu'une grande partie des musulmans en France applaudiraient au fait de décapiter des bébés, de brûler vifs des gens ou de tuer un professeur en France, évidemment que c'est pas vrai. Et vous voyez, c'est tout le risque de la question de l'importation. Croire que, si vous voulez, les musulmans français seraient partie prenante du conflit israélo-palestinien, c'est une erreur de lecture, me semble-t-il. Mais encore une fois, je ne dis pas ça spécialement contre Marek Alter, parce que je comprends bien sa logique. Et d'ailleurs, il y a eu des très belles tribunes, notamment une aujourd'hui dans Le Monde, aussi dans Le Point de Kamel Daoud, de gens qui étaient des auteurs musulmans, qui, au nom du fait qu'ils étaient musulmans, prenaient la parole publiquement pour dire toute leur horreur vis-à-vis du contexte général.
On marque une pause et on se retrouve avec Éric Revel et Nathan Dever dans Ça se dispute. La deuxième partie, on fera un point sur l'actualité aussi. Avec Isabelle Piblot. Ce sera juste après la publicité. À tout de suite. Toujours en direct sur CNews, ça se dispute même le samedi avec nos invités Éric Revel et Nathan Dever. Mais d'abord un point sur l'actualité. Isabelle Piblot, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. L'armée israélienne annonce avoir retrouvé des cadavres d'otages israéliens dans la bande de Gaza, enlevés par des commandos du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. L'armée israélienne confirme par ailleurs avoir identifié plus de 120 civils retenus captifs à Gaza. Des centaines de personnes restent portées disparues et des corps sont toujours en cours d'identification. Vêtu d'un gilet pare-balles, le premier ministre israélien a rendu visite aux troupes israéliennes près de la bande de Gaza. Êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Ça va continuer, a lancé Benjamin Netanyahou à plusieurs soldats. A noter qu'une semaine après le début de la guerre, le bilan des ressortissants français tués est désormais de 17 morts et 15 disparus. Enfin, l'Union européenne triple son aide humanitaire à Gaza. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé après s'être entretenue avec le secrétaire général de l'ONU. L'aide humanitaire va augmenter de 50 millions d'euros. d'euros, ce qui fait un total à plus de 75 millions d'euros. Un sommet par visioconférence des dirigeants européens se tiendra mardi.
Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité à 22h sur l'antenne de CNews. Deuxième partie, deuxième et dernière partie de Ça se dispute avec Éric Revel et Nathan Dever. Avant d'enchaîner sur une nouvelle thématique, peut-être un mot encore avec vous sur le débat que nous avions juste avant la publicité, Éric Revel, sur le rôle notamment des musulmans, oui. Comme le disait Marek Alter, qui devrait prendre la parole pour défendre leur
religion.
Alors,
Marek Alter parle de manifestations spontanées organisées par des musulmans qui ne sont pas des islamistes qui viendraient défendre la République. Bon, pour l'instant, on les a pas, ces manifestations. Alors,
non.
Bon, est-ce que c'est par crainte d'être pris à partie ou parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire? C'est à eux de le dire. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a l'imam de la Grande Mosquée de Paris, de Drancy, de Bordeaux, qui ont appelé à la paix, qui ont appelé au calme, qui ont demandé à ce que ce conflit ne soit pas importé en France. Il faut quand même rapporter leurs propos directement, sans essayer d'y voir une chose ou une autre. C'est quand même important de le dire. Puis important de dire aussi que il y a des musulmans évidemment dans ce pays qui vivent de manière calme, qui sont d'une certaine manière pris en otage par le climat terrible que nous vivons, anxiogène, psychotique ou pas, autour de ces barbaries commises en Israël. Est-ce que ces musulmans vont être pris à partie aussi? Vous voyez, il faut aussi le dire, parce qu'ils font partie de la communauté nationale, ces gens. Donc il ne faut pas oublier non plus leur sort, c'est-à-dire qu'on n'est évidemment pas dans la bande de Gaza, mais on est dans un pays où une communauté musulmane importante vit, et elle peut aussi être prise, montrée du doigt, en tout cas, après tout ce que nous vivons. Et pour autant, est-ce qu'elle est responsable de ce qui s'est passé en Israël? Non.
Non.
Non. Elle n'est ni adhérente au Hezbollah, ni au Hamas, ni au djihad islamique, ni à Daesh, ni à Al-Qaïda. Voilà. Et c'est aussi cette carte-là que jouent les fanatiques islamistes. C'est ce qui avait été dit après l'attentat du Bataclan, vous vous souvenez? C'est qu'ils avaient espéré qu'il y ait une sorte de réaction terrible de la population française. Bref, que le pays s'embrase, et ça aurait fait le jeu, évidemment, dans le chaos de ces groupuscules islamiques. Moi, je suis pour combattre jusqu'au dernier le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique, mais je ne confonds pas tout. Et évidemment, j'espère que le pays va rester solide sur ce qui reste de valeurs républicaines.
Et garder cette unité, ou en tout cas essayer de la développer encore un peu plus, comme le préconisait Emmanuel Macron hier, ou comme l'ont fait aussi bien Elisabeth Borne que Gabriel Attal aujourd'hui. On en revient donc à la mort hier de ce professeur à Arras, Dominique Bernard, et cette question qu'on peut se poser désormais. Est-ce que les enseignants sont des cibles privilégiées de la violence et du terrorisme? Dominique Bernard est mort, tué par l'assaillant lors de cette attaque dans son lycée. Qui était ce professeur? Solène Boulan, Pierre Emco et Augustin Donadieu nous en disent plus.
Derrière une rue balise jaune, des élèves et leurs parents franchissent les portes du lycée Gambetta d'Arras, dont l'entrée est gardée par des policiers. Tous sont venus se recueillir pour rendre hommage à Dominique Bernard, cet enseignant tué hier par un homme fiché S. Originaire d'Arras, le professeur de 57 ans était père de 3 grandes filles et marié à une enseignante. Agrégé de lettres modernes, il exerçait au collège et était apprécié de ses élèves et de ses collègues. L'émotion est encore vive aux abords de l'établissement.
Ça a été mon professeur pendant 2 ans et c'est un prof qui était quand même connu des élèves, même si on l'avait pas en tant... Enfin, moi, je l'ai eu, mais même les élèves qui l'avaient pas en tant que prof, on le connaissait. Il faut plus... Enfin, là, je veux plus ça pour mes sœurs, pour mes petits frères, pour les autres élèves, pour nous, en fait, les générations futures.
Au nom de notre profession, c'est extrêmement important de lui rendre hommage. Et comme Samuel Paty, c'est un membre de notre famille qu'on n'oubliera jamais.
Dominique Bernard avait cofondé l'Université populaire d'Arras dans les années 2000, où il donnait des conférences sur la littérature, le cinéma et la musique. Il a été poignardé devant l'établissement, avant que l'assaillant ne pénètre à l'intérieur. Après s'être recueilli devant son corps hier, Emmanuel Macron a indiqué que le professeur avait sans doute sauvé beaucoup de vies en s'interposant.
On ignore si Dominique Bernard a été tué par son terroriste, alors que celui-ci savait quelle était sa profession, s'il était véritablement un professeur de français. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'Éric Revel le précisait, le terroriste recherchait un professeur d'histoire. A-t-il été symboliquement ou directement tué, Nathan Devers, parce qu'il est, je parle du professeur, l'incarnation du savoir, de l'enseignement, de la transmission, de l'héritage culturel?
En tout cas, on n'a pas encore toutes les informations sur cet attentat, mais manifestement, la personne avait choisi de faire ça dans une école, dans un lieu d'enseignement, dans un lycée. Donc c'était ça manifestement qu'il voulait viser, sans me mettre dans sa tête. C'est sans doute... Moi, je suis ému d'apprendre que ce professeur avait fondé, je ne savais pas, une université populaire à Arras. Là, c'est vraiment... Là, on est dans toute la tradition. Je disais tout à l'heure, l'école ciment de la République, c'est un peu un lieu commun de dire ça. Hein. Mais cette logique-là du professeur qui vit son métier comme une sorte de transmission de savoir, comme une mission non seulement professionnelle, mais presque politique, au sens de fonder la République. Les universités populaires, c'est une des choses les plus nobles qui soient. C'est un travail bénévole, vous ne gagnez pas un centime, vous enseignez des disciplines qui vous passionnent, donc là, le cinéma, la littérature, etc., à des gens qui peuvent venir en tout public, sans passer de diplôme, sans, si vous voulez, toutes les contraintes de l'institution scolaire. La porte est ouverte pour tout le monde. Des gens qui parfois ont des métiers qui n'ont rien à voir avec la littérature, avec le cinéma, etc., et qui viennent se cultiver. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et alors, c'est ça qui est visé pour vous répondre, oui. Mais ce qu'il faut quand même voir avec le terrorisme, et c'est d'ailleurs toute la différence entre la peur et la terreur, c'est que le terrorisme, par principe, il n'a pas de cible privilégiée. Sa cible privilégiée, c'est n'importe laquelle. C'est ça, c'est générer de la terreur, c'est faire en sorte que les habitants d'un pays ne sachent pas par où ils vont être attaqués. La peur, ça a une structure, c'est une émotion, c'est un affect qui a une structure très précise. Et on a une menace, c'est un peu comme une flèche, on sait d'où elle vient, on sait par où elle va nous attaquer, on sait qui, on sait quoi, voilà. La terreur, c'est exactement l'inverse. Et quand on fait un peu la généalogie des actes de terrorisme que nous avons eus sur notre territoire depuis une dizaine d'années, en fait, on voit qu'à peu près tout dans notre société a été attaqué. Depuis une fête nationale sur la promenade des Anglais, des bars dans le Marais à Paris en novembre, 13 novembre 2015, une rédaction d'un journal, des écoles, des professeurs, des supermarchés juifs, des synagogues. Donc, si vous voulez, le principe même de la terreur, c'est qu'il n'y a pas de cible privilégiée et que ça redouble encore plus l'état d'anxiété, de psychose dans lequel l'islamisme veut nous mettre.
Gabriel Attal, dans son discours à la Sorbonne aujourd'hui, a dit une phrase intéressante: l'école est le rempart contre les forces du mal, Éric Revel. Bah, donc cela veut dire que les forces du mal s'en prennent à l'école parce que c'est un adversaire.
Il emploie cette expression, les fleurs du mal. Moi, j'emploierais plutôt le mot d'obscurantisme. En fait, si on essaie de faire le parallèle entre ce que peut représenter l'école de la République aujourd'hui et ce que représentent ces mouvements terroristes islamistes, vous avez d'un côté justement la lumière, des gens comme D'Alembert, tous ceux qui ont participé à l'esprit des Lumières, et puis en face vous avez l'obscurantisme. Et évidemment qu'il faut rapprocher le fait qu'un terroriste, une fois de plus, en France, s'en prend à des lieux de culture. Un journal, comme Charlie Hebdo, c'est un lieu, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais c'est un lieu de débat, c'est un lieu de culture. Samuel Paty, c'était un professeur. Dominique Bernard, c'était un professeur. D'une certaine manière, quand on s'en prend à un concert et qu'on massacre des jeunes gamins qui sont en train d'écouter un concert, on s'en prend à une culture. Donc en fait, plutôt que... les forces du mal, vous savez, les forces du mal, je pense que ces islamistes considèrent que les forces du mal, c'est nous. Donc plutôt que ça, moi je préfère opposer la lumière à l'obscurantisme, la vie à la mort. C'est ça en fait. Regardez la façon dont le Hamas s'en est pris à ces jeunes, et je le dis avec beaucoup d'émotion, qui était une rêve partie consacrée à la paix en Israël. Une rêve partie. C'est de la culture, mais c'est surtout de la joie et de la vie. C'est de la jeunesse, c'est de l'avenir du monde. Face à ça, vous avez la mort, l'obscurantisme du Hamas. Vous avez d'un côté l'Occident, avec tout ce qu'il charrie aussi de décadence, de problèmes. Et en face, vous avez des gens qui veulent nous détruire. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Oui.
Donc, la lumière face à l'obscurantisme, la vie face à la mort, l'énergie face... Au désespoir qui devient un tremplin justifiant tout, y compris les actes les plus barbares. En fait, c'est ça qui nous oppose réellement. C'est ça qui nous oppose, Lionel.
Oui, mais les professions et les profils, Éric Revel, qui représentent, qui symbolisent aussi la démocratie, la liberté, la République, tout ce qui fait la France, notamment ou la liberté. Et les professeurs, comme les policiers, on peut parler de Magnanville, notamment le couple de policiers dont le procès a eu lieu, ça a démarré il y a quelque temps maintenant. Samuel Paty, ce professeur hier, ce sont des professions qui sont visés plus que d'autres. On a moins tendance à attaquer des garagistes.
Évidemment, l'assassin de Dominique Bernard ne pouvait pas savoir tout ça, mais je regardais dans le détail. Il avait créé une université populaire, comme l'a appelé Nathan, mais il était très éclectique dans les lectures qu'il faisait et à ses élèves et dans cette université populaire. C'était à la fois Céline, c'était à la fois René Char, c'était à la fois Victor Hugo. Vous voyez, tout, c'était du savoir. Quand vous savez, quand vous accumulez du savoir, vous êtes plus modelé pour analyser et pour avoir une vision en profondeur des choses et des mouvements, en réalité. Cet obscurantisme-là, il ne veut pas, en fait. Il ne veut pas d'histoire, il ne veut pas de réflexion. Il veut imposer la mort et la force.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est, à mon avis, là-dessus qu'on doit se mobiliser et être unis. Jamais la barbarie ne doit nous faire reculer, pas un instant, même si on a peur pour nos vies, même si on a peur pour les vies de nos proches. Mais jamais on ne pourra céder à ce genre d'acte. Voilà. Et puis aujourd'hui, bon, on va peut-être parler de la situation internationale. Oui. Bon, mais moi, ce que je crains, c'est que la décision de Tsahal de rentrer de rentrer à Gaza, qui va évidemment faire des morts parmi des civils palestiniens innocents qui ne sont pas Hamas, qui ont fait confiance à l'OLP corrompue, ces gens-là vont énormément souffrir. Et ça résoudra quoi sur le fond ? Pas grand-chose.
Justement, au cœur de ce terrorisme, de cette violence, Arras, Israël, samedi dernier notamment, et Gaza. Là, à travers les bombardements, il y a eu plus de 300 morts parmi les victimes civiles. C'est le Hamas qui dit cela avec les bombardements israéliens. La réplique de Tsahal et très vraisemblablement aussi lorsqu'il y aura cette incursion terrestre de l'armée israélienne. Est-ce que cela peut justifier les victimes civiles? On en parle avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, juste une photographie de la situation en Israël, à Sderot notamment, avec Régine Delfour, l'une de nos envoyées spéciales, qui est dans cette ville israélienne qui s'est transformée en ville fantôme.
Nous sommes à Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, et regardez ces rues qui sont désertes. Elles sont désertes puisque la ville est très souvent prise pour cible avec des tirs de roquettes. Et le samedi 7 octobre, lors des attaques du Hamas, le commissariat a lui été investi par une dizaine de terroristes. Et regardez ce qu'il reste du commissariat. Il était totalement détruit par les militaires puisque, en fait, les militaires et les policiers avaient peur qu'il reste encore des explosifs à l'intérieur du commissariat. Cette ville, c'est environ 35 000 habitants. La moitié de la population a déjà évacué. L'autre moitié doit évacuer ce dimanche.
Nathan Devers, peut-on légitimer, justifier, trouver une explication, une raison aux victimes civiles, quelles qu'elles soient ? Qu'elles soient palestiniennes, qu'elles soient israéliennes, qu'elles soient françaises, avec ce professeur hier ?
Je trouve que vous posez une excellente question et vous la posez dans des excellents termes, c'est-à-dire de mettre en perspective ces trois situations. Mmh. Évidemment qu'il doit y avoir une symétrie, une égalité, une identité absolue de l'émotion, du refus et du sentiment de scandale face à la mort d'un civil, quel qu'il soit, et quelle que soit la proximité éventuelle qu'on peut ressentir avec son peuple ou je ne sais quoi. J'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours, pour dire mon émotion absolue et mon refus des civils qui étaient morts en Israël, tués, massacrés par les pogroms du Hamas. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient « Et alors, les enfants de Gaza, vous vous en émeuvez pas, etc. » Et je sais très bien que quand là, je vais écrire dans les prochains jours un article sur les enfants et les civils de Gaza qui sont dans une situation qui suscite mon émotion égale, je vais recevoir tout un tas de messages pour me dire, pour me renvoyer aux civils israéliens. Il doit y avoir une symétrie absolue de l'émotion. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut remarquer qu'il n'y a pas une symétrie des situations. C'est-à-dire que vous avez cité Arras, Gaza et Israël, vous avez des civils qui ne sont pas tués dans les mêmes circonstances, pas par les mêmes gens, pas dans la même conjoncture, etc. etc. Et donc face à cela, renvoyer dos à dos les morts de civils, il faut le faire. Ensuite, il faut avoir la grille causale. Et donc notamment, il faut rappeler, c'est extrêmement important, que c'est le Hamas qui a décidé, entre Israël et la Palestine, de lancer cette offensive pour exposer lui-même sa propre situation. On sait que le Hamas, par exemple, a fait des blocus pour empêcher à sa population de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Maintenant, cela dit, moi je suis assez critique du gouvernement israélien depuis un certain temps. Je n'ai absolument pas apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire, la formule selon laquelle Monsieur Gallant évoquait des animaux humains à Gaza, en créant une confusion volontaire entre les gens du Hamas et les civils. J'ai absolument pas apprécié non plus la formule de Monsieur Smotrich, ministre des Finances, disant que l'instant était à la cruauté et que la question des otages, d'ailleurs, il fallait pas trop y penser, parce que ce qui comptait, c'était en gros de faire vivre l'enfer à Gaza comme on avait vécu l'enfer en Israël. Je n'ai pas apprécié. Et d'ailleurs, c'est pas la position israélienne. La position israélienne, ça a toujours été de dire, CF Gilad Shalit, que les otages, ça passait avant tout. Donc voilà. Et il faut absolument être dans cette symétrie totale des civils, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord. De toutes les manières, quand on vise des civils, moralement, c'est injustifiable. Et stratégiquement, c'est l'engrenage du pire. Vous créez de la haine sur 10 ans, sur 20 ans, vous créez de la haine.
Ce qu'il faut dire, sans doute pour rester dans la région du Proche-Orient, et Éric Revel, c'est que c'est le Hamas qui tue des Israéliens, mais c'est le Hamas aussi qui tue des Palestiniens, avec les répliques de l'armée israélienne, en effet, mais en exposant sa population, en l'offrant en chair à canon à l'armée israélienne.
Bien sûr.
Qui, dans son droit légitime militaire de guerre, réagit.
Bien sûr, la population gazaoui, une large partie d'entre elle, est prise en otage, en fait, par l'offensive du Hamas en terre israélienne. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que là, le Hamas est en train de marquer des points, en réalité. Parce que la contre-attaque de Tsahal va être terrible, cruelle, légitime mais cruelle, et donc évidemment, les images vont être terrifiantes d'enfants, de femmes palestiniens qui n'ont rien demandé et qui ne peuvent fuir nulle part. L'Égypte refuse d'en accueillir, la Cisjordanie, n'en parlons pas, la Jordanie non plus. Donc en fait, le Hamas est en train de marquer des points. Et si vous regardez ce qui s'est passé au niveau de la diplomatie internationale hier, l'Arabie Saoudite a suspendu le dialogue avec Israël. L'Arabie Saoudite, qui était sur le point, comme le Maroc, comme Bahreïn et les Émirats, de signer les accords d'Abraham de rapprochement avec Israël. Donc le fait que l'Arabie Saoudite suspende son dialogue avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, c'est une victoire du Hamas. Parce qu'en réalité, si l'Arabie Saoudite avait eu le temps de signer cet accord avec Israël, je pense que c'en était fini du Hamas et d'un paquet de mouvements terroristes, jusque et y compris peut-être le Hezbollah qui fait son miel au Liban. Donc en fait, c'est une victoire du Hamas, puisque l'Arabie Saoudite a décidé hier de suspendre. Oui, c'est une victoire diplomatique pour le Hamas. C'est d'une incohérence incroyable, oui. C'est d'une cruauté
et
fantastique.
Et indirectement de l'Iran, alors.
Et bien sûr. Donc on en est quand même là, si vous voulez. La barbarie marque des points.
Nathan Dever.
Mais je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. On pourrait juste mettre cette nuance que la position saoudienne est un peu... on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est pas sûr que ce soit une suspension. On ne sait pas trop ce qu'ils ont dans
c'est
la tête.
De la diplomatie,
ils ont des projets quand même, notamment le projet de Neom, cette grande ville dans le nord de l'Arabie Saoudite, qui est difficilement compatible avec une non-normalisation des relations avec Israël. C'est à 50 km des frontières israéliennes. Mais sur le fond, moi, j'ai pas de compétences militaires, donc je suis pas là pour donner des leçons de comment il faut faire, quelle méthode, etc. Mais sans avoir de compétences militaires, on a une compétence civique. Tout le monde en a une. Je pense qu'il y a deux principes qui sont absolument majeurs et qui doivent guider la réponse d'Israël. Le premier principe, c'est d'éviter au maximum la moindre victime civile à Gaza, parce que ce n'est pas la position juive, ce n'est pas la position de l'éthique qui a toujours gouverné l'esprit d'Israël. Et deuxièmement, la priorité des otages. Voilà. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure, suite il y a des services secrets, il y a des choses, il y a des opérations, j'en sais rien. Mais si Israël n'était pas habité dans sa réplique par ces deux priorités-là, eh bien sa réplique serait fortement condamnable.
Israël alors, prévient et demande aux populations gazaouies justement de quitter
oui,
le nord.
Oui, mais pour aller où?
Bien sûr.
Si vous voulez, ils sont sur 40 km, 2,5 millions, sur 6 km de large.
Oui, vous mais voulez au aller moins, où, au moins prévenir.
Non, mais l'Égypte, vous avez bien vu que l'Égypte ne veut pas accueillir des gazaouis supplémentaires. C'est quand même d'ailleurs assez intéressant de voir que la plupart des pays arabes s'intéressent à la cause palestinienne, mais refusent d'accueillir des Palestiniens. Puis j'ajoute, puisqu'on parlait de Nahom, et c'est vrai que c'est un sujet pour l'Arabie saoudite, de la même manière pour le Hezbollah au Liban, il y a un sujet énorme, c'est que l'économie libanaise est par terre et qu'elle a un besoin très urgent du développement de deux gisements gaziers au large, à Cana notamment, et ces deux gisements gaziers devraient être en partage entre Israël et le Liban. Donc si le Hezbollah rentre en guerre contre Israël et ouvre un nouveau front, c'est une façon aussi de condamner cette potentielle tirelire à devises que représentent ces deux gisements gaziers. Et vous savez, l'intérêt, il y a de l'humain tellement... et c'est tellement fort, mais il y a aussi tous ces sujets économiques qui sont très importants, et notamment pour un pays comme le Liban qui est par terre, qui n'a plus de services bancaires, qui a 3 heures d'électricité à Beyrouth, et j'en passe.
On a bien compris qu'on était dans un contexte international de diplomatie et peut-être d'escalade. Et on n'est peut-être qu'au début, puisque une dépêche vient de m'apprendre qu'Israël vient de frapper la Syrie après une alerte aérienne dans le Golan annexé. Donc là, on est encore dans le cadre...
Non, ils avaient bombardé les deux aéroports...
Oui, mais il y a eu des alertes aériennes qui ont résonné...
Bon, il faut craindre un embrasement général. Hein.
Et donc, c'est aussi Israël pourquoi,
c'est aussi pourquoi le plus gros porte-avions américain, l'USS Gerald Ford, est arrivé à côté d'Israël. À l'intérieur, il y a des F-35 qui sont des avions furtifs et qui peuvent frapper n'importe où et qui ne sont pas détectables.
On marque une pause. Olivier Clair en Fleck avec Soir Info dans quelques instants sur CNews. Merci Eric Revel et Nathan Dever de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.